marche lentement sous le poids de la peur. Nuage noir arrosant ta laideur. Affamé de lumière, ton ventre creux espère que tu laisses tomber les critères, que tu laisses couler ta colère jusqu'à ce qu'elle danse.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
La semaine prochaine, c'est good. Désolé, j'ai pas d'expac depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vendredi 24 juin 2022, ici Alex Bayergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec, votre radio universitaire préférée. Content de vous retrouver cette semaine. On est entre nous. L'émission à Sherbrooke va être similaire pour la petite anecdote, mais elle a été enregistrée hier. Donc, pour aujourd'hui, on sera entre nous. Donc, il y aura sujets locaux, en quelque sorte, ou en tout cas, sujets un peu plus d'actualité, entre guillemets, parce que la nouvelle est sortie hier. Il y a une première étude qui est favorable au troisième lien. Ils en ont fait une. Ironiquement, il y avait juste du monde de l'autre bord du troisième lien qui était content de tout ça et qui était à la conférence de presse. Mais ça, c'est un hasard. Bruno Marchand est au Mosaïque Culture. Le troisième lien apportera des gains de productivité aux régions de Chaudière-Appalaches et de la capitale, selon une étude commandée par Lévis. Or, l'étude de son propre aveu ne prend pas en compte tous les paramètres pour arriver à des conclusions sans équivoque. Donc, ils ont fait une étude à peu près pour dire « oui, ça va bien aller ». L'étude menée par la firme WSP laisse entrevoir une augmentation annuelle de 631 millions de dollars des PIB des deux régions. Gilles Loyer se peut plus. Il y vante d'ailleurs les répercussions sur l'économie sur la rive nord. Il y en a qui disent que le tunnel, c'est juste pour Lévis. Mais le PIB de la capitale nationale bondira de 373 millions de dollars annuellement dès 2032. Et il veut augmenter de 258 millions en Chaudière-Appalaches. Donc, est-ce que ça veut dire que oui, c'est 631 millions de dollars pour les deux ensemble. Et ce, à partir de 2032. Et ça, c'est une prévision de 4 ans. Parce qu'après 2036, on ne sait pas quelles seront les retombées. Donc, pendant 4 ans, il y aurait des retombées de 631 millions. Je vais bien le calculer pour ne pas me tromper. Ce qui veut dire 2 524 millions sur 4 ans. Le tunnel peut en coûter jusqu'à 10. On dit ça comme ça. En guise de référence... non, voilà, ça, j'ai de le dire. La firme émet l'hypothèse que le troisième lien augmentera de 10% la productivité des travailleurs des deux régions de 2032 à 2061. Cela devrait se traduire par un gain de productivité de 62 cents de l'heure par travailleur dès 2032. Donc, si on récapitule, un tunnel, un bitube de 7,5 milliards dans une précédente version montait à 10 milliards avec les coûts de construction qui augmentent de jour en jour en ce moment dans un sol qu'on n'est pas certain de la composition, à une profondeur qu'on n'est pas sûr encore également, mais qu'on commence à calculer, qui va être rentable seulement lorsqu'il sera ouvert, si tout va bien, en 2032, pour faire 2,5 milliards sur 4 ans et ainsi gagner 62 cents de l'heure à partir de 32 jusqu'en 61. Personnellement, je vais avoir 69 ans à ce moment-là. L'étude fait aussi part d'avantages sociaux et économiques liés au troisième lien, se basant sur l'hypothèse qu'il permettra de réduire la distance totale parcourue, de même que la durée du déplacement sur l'ensemble du réseau routier de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Selon une hypothèse qui n'a pas pu être vérifiée en l'absence de données quantitatives à l'échelle régionale, selon le texte de cette étude. Plusieurs bénéfices comme l'amélioration de la conciliation travail-famille, le potentiel de réduction des accidents routiers... Et de la réduction de la pollution atmosphérique non plus, sont basés au moins partiellement sur cette hypothèse. Donc, parce qu'il y a un bitube, il y aurait moins d'accidents de char, selon l'hypothèse. En tout cas, les avantages économiques n'ont été calculés qu'à partir des données fournies par le bureau de projet du troisième lien pour l'année 2036, 4 ans seulement après la mise en service du tunnel. Donc voici d'où sort mon 2036. Ce sont des prévisions qui ont été faites pour les 4 premières années lorsque le bitube serait ouvert. Mais après ça, on n'en a pas d'autres. Donc, on se base sur App. On dit il devrait y avoir 2,5 milliards, mais on n'est pas sûr et on ne sait pas après ça ce que ça va donner. Donc, les quatre premières années évaluées ne sont déjà pas rentables. Parce que si on calcule très bien, si on calcule... bon, c'est 2 milliards et demi là, ça en prend 4 fois plus. Donc, on est rendu à 16 ans pour qu'il commence à peut-être être rentable, même 20 ans. Parce qu'on se fiera pas à un 7 milliards et demi, c'est pas vrai, ça va être beaucoup plus. Fait que mettons, on revient à 10 milliards. À 2 milliards et demi, 2 milliards et demi fois ça, fois 5, fois 4, fois 5. Pour être vraiment sûr qu'il soit rentable. Donc, on est rendu à 20 ans après la construction du troisième lien, qu'il soit peut-être correct. Si les prédictions d'aujourd'hui sont bonnes et s'il n'y a pas de dépassement de coût quand il va commencer à être fait dans 5 ans, c'est totalement absurde. Et évidemment, ben, Gilles Louillet s'accroche à ça parce que c'est la seule affaire qu'il est capable d'avoir de son bord. L'étude mentionne que le tunnel Québec-Lévis contribuera à créer des emplois. Bon, en tout cas, pendant la conférence de presse, l'absence de représentants de la région de la Capitale-Nationale au grand complet, ni les députés des circonscriptions de Taschereau et de Jean-Lesage où le tunnel aboutira n'étaient présents, ni le maire de Québec, ni la ministre responsable de la région de la capitale, ni le ministre des Transports. Il n'y avait personne. Il y avait littéralement le préfet de la MRC de Bellechasse, la députée de Bellechasse et Gilles Louillet, maire de Lévis. C'est tout. Et on rappellera également que dans l'actualité cette semaine, on a un manque d'ambulances à Lévis parce que le territoire est beaucoup trop large et qu'il n'y a pas assez de, il y a pas assez d'employés qui peuvent s'assurer de faire un travail correct. Passé telle heure, il y a juste une seule ambulance pour l'entièreté de la municipalité de Lévis avec les arrondissements. Il y a une dame qui est décédée en 2020 parce qu'il y a eu un call un peu plus important qu'elle qui a fait en sorte qu'elle a été une heure à attendre l'ambulance et elle est décédée parce que justement, ils sont pas arrivés à temps. Et là, ils vont nous faire croire que l'étalement urbain est une bonne chose quand ils sont même pas capables en ce moment de répondre à la demande. C'est totalement absurde. Donc, cette annonce-là fait en sorte que il y a un mini espoir que... Ben en tout cas, on va s'assurer de bien milquer, de bien tordre la moindre goutte d'information sur cette étude-là, même si en la lisant, on se rend compte que c'est des si, des peut-être, des on estime, et c'est tout. Et combien a coûté le tout? 65 000 $ que la ville de Lévis a payé pour se faire dire « ça va peut-être être une bonne chose ». On a invité uniquement les gens avec qui un réseau pro-tunnel, avec qui on a un réseau pro-tunnel, donc avec juste les trois personnes qui pensent que le troisième lien est une bonne chose. C'est un peu risible, mais bon, on essaie tant bien que mal de justifier quelque chose qui est injustifiable, littéralement. Donc voilà, on a une étude qui va dans le sens que le troisième lien pourrait peut-être être une bonne chose, mais qui ne sera rentable au minimum que 20 ans après l'ouverture du bitube, si toujours c'est possible. Parce qu'on parle de 2032 pour l'ouverture, avec une pelletée de terre, c'était en 27, 28, fait qu'on se donnait 5 ans. 4 ans, 5 ans pour faire un tunnel sous le fleuve et qu'on partait à la base du plus gros tunnel au monde. Quand on a de la misère avec le pont, une couple de kilomètres après, on pensait être capable de faire le plus gros tunnel au monde jamais réalisé ailleurs dans le monde. Mais on est confiant que 20 ans après, le troisième lien aura été une bonne chose. Surtout que on n'est même pas sûr s'il va y avoir encore autant de voitures d'ici 2000, là, on était 32. Fait que d'ici 2052, il va y avoir autant de voitures ou si quelqu'un va finir par allumer que le transport en commun va faire diminuer le nombre de chars. Donc, incider sur le trafic et faire en sorte que mettre du transport qui a de l'allure sur les deux rives, surtout du bord de Lévis, ferait en sorte qu'il y aurait un peu moins de problèmes de circulation s'il y avait des alternatives qui se valaient. Parce que c'est sûr qu'en ce moment, ça ne vaut pas la peine. Je suis le premier à rester dans un village qui a des bus le matin à 7h, 7h15, 7h30, et il y en a quasiment plus d'autres de la journée, voire il y en a plus du tout de la journée, et où qui te déposent à Place Laurier, pas ailleurs. Fait que des gens partant, c'est pas particulièrement intéressant. Puis en plus, d'où moi je reste, je peux pas y aller. Ou en tout cas, s'il faut que j'y aille, il faut que je prenne une marche de quasiment 1h15 parce que l'arrêt d'autobus ne passe pas proche de chez moi. Je pourrais la prendre, l'autobus, mais pas à proximité. Puis encore là, quand il faudrait me faire déposer à 7h le matin, ça n'a pas de sens. Donc, arrangez ça pour que ça soit intéressant, que le monde veuille prendre le transport en commun. Pas de faire des campagnes avec des arbres en 3D qui se font démolir à cause du tramway. Québec vaut mieux. Ça, l'organisme, en tout cas, la publicité est tellement mal faite à TV. C'est assez gênant. Versus la pub pro-tramway, qui est bien fait, mais qui a pas d'animation un peu boboche à l'intérieur. Après ça, oh oui, on est convaincant. Venez de notre bord. Donnez-nous votre argent pour qu'on ne fasse pas le tramway. Aussi logique que ça peut être. Bref, en ce moment, il y a une étude à jour. Parce qu'évidemment, l'autre étude sur laquelle on se basait aussi avant ça, c'était une étude de 2012, me semble. Puis même l'auteur de l'étude avait dit « Ouais, c'est parce qu'elle est plus bonne, faudrait la refaire. » Mais il s'appuyait vraiment beaucoup là-dessus, quand même. Et la Chambre de commerce de Lévis qui disait « Oui, oui, c'est une bonne chose. » C'est à peu près tout. On s'arrête quelques instants. Au retour, parle de l'actualité de la semaine, bien évidemment, et un arrêt au cinéma, bien sûr. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3. Gab Paquet en musique avec Vie antérieure. Tout de suite.
Les premiers rayons du soleil embrassent tes paupières. Sorti du rêve intemporel où tout se passe à merveille, je regarde les nouvelles où c'est la paix, où c'est la guerre. J'ai connu des jours meilleurs, j'ai déjà vécu tout ça. Dans mes vies antérieures, toi tu es. Sur une autre planète, nos premiers préliminaires, dans un univers parallèle, il y a de cela des millénaires. C'est ce désir ressuscité dans le tabernacle du temps, les enfants des dieux dévorés, pris entre les jambes du temps. Cette douleur intérieure, j'ai déjà vécu tout ça. César, j'étais Napoléon, j'étais Léonard, t'étais la Joconde, t'étais Jeanne d'Arc, reine des Amazones, t'étais Cléopâtre, j'étais Pharaon. Souviens-toi des empires que j'ai détruits pour te séduire, mais je me lasse de voir mourir ces innocents pour ton sourire. J'ai ri pour toi, tu pleures, t'as déjà vécu tout ça. Yeah.
De retour au deuxième service, c'était la nouveauté de Gab Paquet, voilà, qu'on vient d'entendre en musique. Gros drame, mais pas tant que ça non plus, qui est arrivé cette semaine. On a annoncé officiellement que le gala artiste était retiré de la programmation de TVA. On pensait qu'il allait avoir des gens tristes, mais finalement, pas tant que ça. Et c'est ça probablement le bout où la nouvelle est le plus drôle, c'est que les gens étaient à peu près tous contents sur les réseaux sociaux que ça se termine enfin. Parce que depuis, bon, mettons, les 3-4 dernières éditions, ça devenait risible à quel point c'était tout le temps le même monde qui gagnait, mais littéralement tout le temps le même monde qui gagnait. Ce qui est fait dire, entre autres, dans les chroniques là-dessus, c'est malheureusement terminé pour Pierre Bruno, Gino Chouinard, Dave Morissette ou Guy Jodoin de recevoir un trophée et de dire « C'est pour vous que je pratique ce métier. C'est un énorme privilège que d'entrer dans vos salons à tous les jours. Merci de votre fidélité, de votre amour. » Et Dave Morissette, arrêtez pas de m'aimer. Fait que tu sais, cette espèce de tout le temps les mêmes personnes gagnent. À l'opposé, bien évidemment, les gens avaient tout le temps l'exemple de Guylaine Tremblay également qui a gagné meilleure actrice et personnalité féminine de l'année à chaque saison. Ou en tout cas, quasiment tous les galas qu'elle a fait, sinon c'était en alternance avec Véronique Cloutier. Officiellement, ce que TVA a dit pour annoncer que le gala était terminé. Le monde des médias et de la télévision évolue sans cesse. Ce qui est un gage de succès autrefois n'est plus toujours aussi pertinent aujourd'hui. C'est le cas des galas traditionnels qui ne répondent plus exactement à leur mission d'origine. D'ailleurs, l'intérêt pour ce genre de soirée est en déclin à travers le monde. Nous sommes convaincus que le rayonnement de notre industrie et des artisans passe d'abord et avant tout, par la création de contenus originaux. C'est une belle phrase. C'est une belle phrase, mais c'est surtout pour dire que les codes d'écoute étaient plus au rendez-vous, donc c'était difficile de vendre la pub. Autrefois, les Metro Stars, devenus les galas artistes, au jour où on a arrêté de remplir des coupons à l'épicerie, pendant un bout de temps, c'est chez Tim Hortons. Je pense que c'était pendant l'ère artiste. Donc, au lieu d'appeler ça les Tim Hortons Stars, c'était devenu le gala artiste. Et plus récemment, c'était la firme Linger Marketing qui était chargée de s'occuper de recueillir le vote et de comptabiliser le tout. Charles Lafortune et Guy Jodoin ont animé techniquement le dernier gala artiste en mai 2021 qui avait été vu entre guillemets, seulement par 176 000 téléspectateurs. Ce qui fait en sorte que, en 2019, le précédent gala, parce qu'évidemment 2020 c'était la COVID, donc on ne l'a pas fait, était à 1 728 000. Et dans les bonnes années du gala artiste, on était à du 2 millions de codes d'écoute. Donc, passer de 1 700 000 à 1 100 000, on va l'arrondir, 200 000 pour TVA un dimanche soir à heure de grande écoute, c'est assez mauvais comme code d'écoute là, pour TVA, là, je le rappelle, parce que n'importe quel autre poste, on veut du 1 200 000. Mais pour TVA, un dimanche soir, avec le gala artiste, c'est assez mauvais. Là-dessus, où ils ont raison, c'est que c'est vrai que les galas télé, en général, sont en perte de vitesse. À titre d'exemple, le gala de la 10 de Louis-José Houde, le dernier, en 2021, n'a attiré que 677 000 téléspectateurs quand normalement on pogne le 1 million, 1 million 2. C'est moitié moins. C'est assez difficile. Quand même, 1 million 15 en 2020 puis 1 million 200 en 2019. En même temps, dans le cas de la musique québécoise, si au moins la musique jouait dans les autres radios autres que uniquement aujourd'hui, ça serait déjà pas pire. Et encore là, aujourd'hui, dans les autres stations, ça va être de la musique des années 90 en reculant. Fait que déjà là, c'est pas non plus représentatif de ce qui se fait en ce moment. Donc c'est sûr que les gens n'écouteront pas un gala de la musique québécoise quand ils ne la connaissent pas. Même affaire du côté des Gémeaux. Et ça, on y reviendra pour les Gémeaux parce que, comble de l'ironie, cette semaine, on a annoncé les nommés dans les différentes catégories. Donc, on va commencer à regarder ça et on conclura la semaine prochaine. Mais dans le cas des Gémeaux, c'est la même chose. La moitié des émissions qui sont nommées cette année aussi ne fait pas exception à la règle. Les émissions n'ont été disponibles que sur le Club Illico, que sur Crave, que sur Vrai, que sur Tout.tv Extra. Fait que les gens n'ont pas vu ces émissions de télévision-là. Et après ça, on se demande pourquoi ils font pas « Ah, on est content que tu gagnes Florence Lompré dans une série qu'on n'a pas encore vue, que tu as écrit. » Fait que c'est pour ça que ça devient un petit peu complexe, parce que la période de mise en nomination, c'est que l'émission doit avoir été jouée quelque part entre telle date et telle date. Mais après ça, est-ce que ça l'a joué à la télé régulière? Ce n'est pas important. Et ça, c'est un problème. Parce qu'avant, les galas des Gémeaux, les émissions avaient déjà toutes joué. Sauf que là, les émissions... En ce moment, le gala des Gémeaux, il est mi-septembre, sauf erreur. Fait que ça veut dire, même là, mi-septembre, il n'y aura aucune émission qui va avoir commencé. Fait que même, il n'y aura pas eu un ou deux épisodes des émissions qui vont gagner des trophées à la mi-septembre parce qu'elles commencent fin septembre, début octobre, ou encore pire, janvier-février l'année suivante, ou pire, au printemps l'année prochaine. Fait que tu sais... C'est pour ça que cette espèce de calcul-là devient un peu étrange. Et c'est la même chose du côté américain, ils l'ont dit. Les Oscars et les Emmy Awards ont eu leur pire code d'écoute des dernières années parce que les gens ne regardent... Ben surtout le cinéma, les gens ne sont pas allés au cinéma l'an dernier. Surtout nous autres au Québec, les cinémas étaient fermés. Fait que le gala des prix du cinéma de la dernière édition au mois de juin, moi-même, le premier, je l'ai pas regardé parce que les nommés, je les connaissais pas. Je ne connaissais pas les films. Oui, il y a toutes les plateformes Sprint pour regarder les films. Mais il y a toujours des limites. Le grand public n'a pas vu les films qui sont en nomination ou à peu près pas. Puis même la déesse des mouches à feu, c'était l'autre gala des cinémas avant. Fait que c'était même pas celui-là. Fait que ça devient complexe. Ça devient complexe et c'est probablement la trappe également qui vont passer pour d'autres galas comme ceux-là. Gala Québec Cinéma, ça va peut-être être surprenant qu'il y ait une prochaine édition ou sinon on va être envoyé à RTV seulement. Et probablement que comme le gala des masques qui récompensait le théâtre, ça risque d'être la même chose. On risque de... malheureusement passé à la trappe le gala de cinéma qui, à une certaine époque, était totalement justifié pour faire la promotion des films d'ici, mais qu'aujourd'hui, justement, ce n'est plus le cas ou du moins, pas que ça devient plus complexe, mais c'est que les gens n'y vont moins, ont moins le réflexe. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils n'ont pas le réflexe. Je n'ai parlé dans une autre émission, les chiffres du cinéma ont été bons pour le cinéma québécois malgré les fermetures de films, mais ça reste quand même que les films nommés par l'industrie, par les gens de l'industrie, ne fitent pas avec le succès populaire. Parce que oui, on a rajouté une catégorie prix du public pour mettre les films populaires, mais après ça, pourquoi ils ne sont pas nommés dans les catégories? T'sais, je veux croire qu'il y a des projets qui peuvent être une couche plus intéressante que les films dits populaires, mais comment ça se fait qu'un Sam de Ian England, qu'un Maria de Mariana Mazza soit quasiment juste nommé pour meilleur costume, meilleure musique, quand c'est probablement dans les films qui ont fait les meilleures rentrées d'argent? Là, je m'avance peut-être pour Maria parce que peut-être, probablement, en fait, qu'il y a eu d'autres nominations. Gala, Québec, on va le vérifier en même temps. Mais c'est pour ça, fait. Et qui se ramasse uniquement, entre guillemets, dans la catégorie choix du public, ben, c'est un peu dommage. Tu sais, meilleur film, Beans, Sin La Habana, que je ne connais pas du tout, malheureusement, se retrouve contre Maria Chapdelaine et Norbourg. Et finalement, c'est Les Oiseaux Ivres, avec Claude Legault, qui sont nommés. Mais Les Oiseaux Ivres, personnellement, ça ne me dit rien du tout. Je n'ai aucun souvenir d'avoir vu ce film-là, ni même de l'avoir vu passer. Fait que ça va relativement pas bien de ce côté-là. Je sais pas s'il y a une déconnexion entre l'académie, entre guillemets, et ce que les gens ont vu. C'est pour ça que ça marche pas. Prix du public, voilà. Et c'est effectivement la seule nomination de Maria, le film de Mariana Mazza, c'est d'être dans la catégorie prix du public, mais dans aucune autre catégorie. Finalement, non, je m'étais pas trompé non plus pour Sam de Ian England. Seule catégorie où il est nommé, prix du public. Uniquement. La famille parfaite de Louis Morissette, les vieux chums avec Paul Doucet et Patrick Labbé, voilà. Ils sont pas dans les autres catégories, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait une catégorie pour les films que le monde ont vu et les autres. Sauf Maria Chapdelaine et Norbourg. C'est les deux seuls qui vraiment se retrouvent là. Ah, il y a La Racheuse de temps aussi. Elle n'est pas meilleur film, mais il y a un meilleur scénario. C'est au moins ça pour Fred Pellerin. Fait que c'est cette espèce de déconnexion-là, et surtout dans le cas du Gala Artiste, que justement, c'était tout le temps le même monde qui gagnait, littéralement, ou à peu près une ou deux exceptions près. Sarah-Jeanne Labrosse qui était rendue la vedette des jeunes, ou Pierre-Luc Funk en alternance. Mais tu sais, c'est pour ça. C'est ça, ça devenait dommage que ça soit tout le temps le même monde. Tu sais, la catégorie sport, qu'il y a eu trois gagnants dans l'histoire de cette catégorie-là. Dave Morissette, Marie-Claude Barrette. C'est ça son nom, Marie-Claude? Oui, Marie-Claude Barrette. Puis, je pense Benoît Gagnon, quand il faisait les sports à Salut Bonjour. Sinon, c'était tout. Tu sais, des Pierre Houd, des Chantal Maccabée. Jamais qui ont pu espérer deux secondes gagner ce trophée-là, là, Alain Crête. Jamais ils ont pu espérer gagner trois secondes ce trophée-là parce qu'ils perdaient contre celui qui faisait sport à Salut Bonjour. Fait qu'il y avait des anomalies dans ce gala-là, malheureusement. Et littéralement, sans aucune tristesse ou à peu près pas, les commentaires sur les réseaux sociaux, lorsque l'annonce a été faite, ça a été « good, il était temps, c'est dommage pour Guylaine Tremblay qui ne gagnera pas un autre trophée ». Fait que tu sais, ça devenait risible et c'est surtout les gagnants qui étaient complètement surréalistes. Je prends juste la dernière édition où Marc Messier gagne dans une dramatique, meilleur acteur dans une dramatique, alors qu'il est rôle de soutien dans une série policière et il gagne contre Vincent Leclerc qui joue Séraphin et qui en est à sa dernière saison, quand une catégorie avant, Sarah-Jeanne Labrosse gagnait pour techniquement Donalda. Fait que tu sais, me semble que c'était Sarah-Jeanne, je viens de le dire, puis je suis même plus sûr. Fait que tu sais, il y avait des trucs qui n'avaient pas de bon sens de même. Gildor Roy, qui gagne rôle dans une comédie, alors qu'il ne joue que le père du personnage principal dans Lâcher prise, et Sophie Cadieux n'est même pas nommée elle-même pour la catégorie comédie. Et les gens ont récompensé le commandant Chiasson davantage que le père dans Lâcher prise. Fait que tu sais, il y avait toutes ces anomalies-là et les acteurs qui s'excusaient quasiment de gagner. Ça aussi, Marc Messier qui dit « Ben, je sais même pas pourquoi je gagne. » Tu sais, il était même pas sûr pour quelle série il gagnait, puis c'est parce qu'il était rôle de soutien puis qu'il était dans deux épisodes sur 13. Je pense que c'est dans Alerte ou une affaire de même. Fait que c'est pour ça. C'est déjà le flou sur pourquoi les personnes gagnent. Parce que la différence, c'est que les Gémeaux, on écrit à côté pour quelle émission ils sont en nomination. Dans le cas du prix artiste, c'était juste la personne. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu confusion. C'est pour ça que Michel Charette et Gildor Roy gagnaient au Gala Artiste parce qu'ils gagnaient pour District 31. Davantage que pour les catégories dans lesquelles ils étaient pour vrai. Fait que c'est pour ça. Fait qu'au moins ça, c'est terminé. Ben, au moins ça, c'est entre guillemets. Le Gala Artiste est finalement terminé. Donc, voilà pour ça. Au retour, On parlera des prix Gémeaux et on parlera également de Lightyear, qui est maintenant au cinéma. Énormément de controverses autour de ce film-là, qui se veut pourtant un film pour enfants. Mais évidemment, il y a beaucoup de monde qui vont juste trouver le moyen de chialer dessus. On s'arrête quelques instants. Au retour, la suite du deuxième service, ici même sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Amazon de Superplage qu'on vient d'entendre en musique. On se transporte maintenant du côté du cinéma puisque le film hautement controversé Lightyear est maintenant à l'affiche. On va aller entendre la bande-annonce tout de suite.
Un an de travail pour 4 minutes de vol. Incroyable, non?
C'est quand vous voulez, monsieur.
On va bientôt savoir si c'est...
On a une intrusion dans le périmètre.
Merci. Journal de bord de Buzz Lightyear. Après toute une année coincée sur cette planète, nous sommes enfin prêts pour le premier vol d'essai.
Allez, rentrons à la maison.
Bonne chance, capitaine.
Bien reçu.
There's a star.
Bonjour, Buzz. Je m'appelle Sox et je suis ton robot de compagnie.
Nous sommes poursuivis par le plus monstrueux des robots.
Ouais. C'était absolument terrifiant et je regrette de t'avoir accompagné. Buzz!
Lightyear!
Je peux émettre un son propice au sommeil si tu veux. Tu as le choix entre nuit d'été, vagues de l'océan,
chant des baleines.
Non, non, du bruit blanc suffira.
Très bien.
Bonne nuit, Sox.
Bonne nuit, Buzz.
Donc voilà pour la bande-annonce de Lightyear. Pour la petite anecdote, c'est la numéro 2, puisque la numéro 3 donne beaucoup trop de punch du film et la 1 n'est pas du tout radiophonique. Donc la 2. Et soyez pas surpris non plus, parce que ce n'est pas Xavier Dolan dans cette bande-annonce-là. C'est arrivé à l'occasion qu'on sortait la bande-annonce avant de sortir le casting final, puisqu'on a appris... En fait, un peu comme aux États-Unis, on a mis beaucoup le focus sur le fait que Dolan faisait la voix principale de Buzz dans ce film-là. Ben, la voix principale faisait la voix point de Buzz dans ce film-là. Comme un peu aux États-Unis, on a fait « Hey, c'est Chris Evans qui va faire la voix de Buzz Lightyear ». Évidemment, ben, il y a eu déjà un premier tollé là-dessus de « Comment ça, c'est pas Tim Allen, la voix de Buzz? C'est Tim Allen qui fait Buzz dans l'histoire de jouets? Nanana, depuis le début? » Ouais, mais c'est justement... Tim Allen fait la voix du jouet. Il ne fait pas la voix de l'être humain qu'est Buzz Lightyear. D'ailleurs, c'est à peu près la seule référence qu'il y aura de Histoire de jouet là-dessus, les trois premières secondes du film, où il y a un petit intitulé « En 95, Andy a reçu pour sa fête un jouet de Buzz Lightyear. Voici son histoire. » C'est à peu près le seul lien qu'il va y avoir avec Histoire de jouet, parce que toutes les autres références ont été un peu enlevées. Donc, quand il y a l'épisode justement avec Zurg dans Histoire de jouets 2, les jouets ont une histoire et ce qui s'est passé dans le film en est une autre. Dans les petites anomalies, mettons, entre les deux univers, on va dire ça comme ça, c'est tout. Donc, les personnages jouets sont une chose et Lightyear en est une autre. Genre, outre le costume, techniquement, ils ne communiquent pas entre eux autres. Parce qu'il y a un bon gag dans Histoire de jouets 2 qui n'existe plus dans le film. Bref. Buzz Lightyear, patrouilleur de l'espace, a fait une erreur en tentant de faire redécoller le vaisseau après l'avortement d'une mission sur une planète inconnue. Résultat, tout l'équipage se retrouve cloué au sol le temps de trouver la bonne formule pour recréer le carburant nécessaire à son retour à la maison. Les choses ne sont pas simples, mais Buzz ne perd pas espoir et enchaîne les sorties dans l'espace. Un jour, il fait la rencontre de trois jeunes recrues ambitieuses qui l'aideront à combattre une nouvelle menace, Zurg, et son armée de robots. Comme je le disais, les critiques sont très tièdes. Malgré tout, personnellement, je trouve que c'est un excellent divertissement. Là, enlever toute la controverse autour, on y reviendra. Visuellement, c'est ça. C'est un film qui est extrêmement beau. Lightyear a très peu de défauts. Le look de Buzz est différent du jouet, évidemment, mais c'est un être humain. Fait que c'est sûr que le jouet ne ressemblera pas systématiquement au même. Le réalisateur Angus McLean a fait du bon boulot pour rendre cette aventure enlevante. À plusieurs reprises, on se retrouve au devant de notre siège inquiet pour le sort de Buzz et ses amis. Oui, la trame narrative n'a pas été exagérément simplifiée pour les enfants non plus, sans être trop complexe et s'avère étoffée, adaptée autant pour des jeunes de 8 ans qu'à leurs parents. Je lis une critique en même temps du film, mais effectivement, si on s'attend à un film pour enfants, uniquement, on va être un petit peu déçus. Tu sais, c'est important de le préciser. Ce n'est pas histoire de jouet. Tu sais, ça n'a pas de lien direct. Donc, ce n'est pas un film à proprement parler pour les jeunes enfants, mettons. Au sens où, justement, il y a des dilemmes moraux, il y a des questions. Le personnage de Buzz évolue énormément dans ce film-là quand on le prend au début et à la fin du film. D'ailleurs, l'intrigue repose un peu là-dessus parce qu'on en fait une mention très brève, à peu près au milieu du film, de comment le film pourrait se résoudre. Et rendu au moment de cette résolution-là, on prend une autre tangente complètement. J'essaie de rester vague un peu, mais en tout cas, ça va être évident si vous allez voir le film après ça, mais quand même, donc... En fait, c'est-à-dire, le film est intéressant. Oui, il y a des questions qui se posent là-dedans. Qu'est-ce qu'on ferait si on était dans la même situation? On peut quand même se l'approprier malgré tout. Puis justement, Buzz a une décision à prendre et devra un peu devra suivre ce chemin-là, entre guillemets. Ça fait également en sorte que, bon, il y a plusieurs... oui, ça reste un film pour pour enfants. Oui et non, parce que c'est un film d'animation, mais c'est un film qui est quand même destiné à tout le monde, parce que là-dessus, tout le monde trouve son compte. Dans le cas de Pixar, ils sont toujours bons pour ça. Premier film, d'ailleurs, c'est le premier film depuis 4 ans de Pixar qui sort officiellement au cinéma. Depuis en avant, Onward, qui a été au cinéma 5 minutes, puis la COVID est arrivée, parce que les films qui ont suivi, c'était Luca, c'était Soul, qui était Arm, et Turning Red, le film qui se passe au Canada. D'ailleurs, le dernier qui a été mis en ligne, qui a eu un excellent succès sur Disney+, mais qu'on n'a pas sorti au cinéma pour une raison totalement étrange. Et en ce moment, Lightyear, qui est au cinéma, n'a pas un bon box-office. Et c'est ça qui est particulier, parce que oui, bon, en compétition directe, il y a Monde Jurassique, qui est encore à l'affiche, mais Monde Jurassique... c'est terriblement mauvais, là. C'est mauvais. C'est du gros jasage tout le long. Et le film qui suit, c'est Top Gun Maverick. Fait que, tu sais, il y a deux gros films en ce moment au cinéma. Il y a Lightyear qui sort la même fin de semaine. Même pas. C'est la fin de semaine après le Monde Jurassique. C'est la deuxième fin de semaine. Puis Top Gun, ça fait un mois. Et il est encore numéro 2 en Amérique du Nord. Fait que, Lightyear a de la misère à trouver son public. Et en plus, justement, avec ces controverses-là, que au Moyen-Orient, parce qu'il y a une personnage qui est lesbienne, on décide de retirer le film complètement. Parce que, encore une fois, le personnage n'est pas. Est important, mais serait rôle de soutien dans ce cas-ci. Au sens où elle est au début du film et rapidement. Ça tombe pour sa petite fille, mais tu sais, elle, en tant que telle, qui est l'amie de Buzz, oui, elle se fait une blonde, elle a une famille, donc elle a une famille homoparentale. Donc, cette controverse-là a fait en sorte que au Moyen-Orient et en Chine, on a demandé de retirer ces scènes-là du film pour les présenter à ce public-là. Évidemment, Disney a dit non, ce qui fait que au Moyen-Orient, c'est banni complètement. Et en Chine, on dit « Ben, OK, d'abord, mais ça se peut qu'on le prose pas de bord. On va le prendre, mais ça se peut qu'il joue pas beaucoup. » Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça devient absurde. Ça veut dire qu'à la limite, ils vont censurer eux-mêmes ce bout-là du film. Et c'est quoi le gros problème également avec cette scène-là? C'est que les deux femmes se donnent un bec. Elle se donne un bec, donc on doit condamner le film au grand complet. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a eu quelques projections qui ont été cancellées justement de jeunes dans des écoles qui devaient aller voir le film et que pour du contenu sensible, on n'ira pas. C'est arrivé, pour vrai. Non, en même temps, il n'y a rien qui surprend. Ils ont recriminalisé l'avortement tantôt en début d'émission. Donc, pour l'information, l'arrêt Roe contre est officiellement aboli. Donc, les États qui voudront pourront recriminaliser l'avortement aux États-Unis. Ça fait maintenant une heure que la décision a été rendue par la justice américaine. Donc, ça vient tout juste. Roe contre Wade a été officiellement aboli il y a une heure. Et le port d'armes est maintenant autorisé également dans l'État de New York, où, on le rappellera, à Buffalo, il y a eu 10 personnes qui ont été tuées parce que le gars voulait tuer du monde. Tout simplement. Voulait tuer des Noirs, en fait. Tout simplement. Donc, ça va très bien. C'est les États-Unis. Voilà. Donc, Lightyear, qui connaît un départ modeste, j'ai envie de dire qu'avec les vacances, vont peut-être reconnaître un petit boost. En tout cas, on l'espère. Va reconnaître un petit boost parce que pour vrai, c'est un bon divertissement. Ça vaut la peine. Il y a une bonne intrigue. Est-ce qu'on voit la fin venir? Oui et non. Il y a des gens qui sont beaucoup plus perspicaces que moi vont dire « Oh, j'avais prévu ça depuis le début », mais ils disent ça tout le temps. Dans mon cas, agréablement surpris, et justement, ce n'est pas un film que pour les enfants. Les adultes trouvent leur compte au sens où ça ne s'adresse pas non plus qu'aux fans d'histoire de jouets quand il est sorti pour la première fois en 95-96 et qui, comme moi, ont 30, 35, 40 ans et qui sont heureux de voir du histoire de jouets qui se poursuit. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un autre épisode totalement. On va vraiment complètement ailleurs. On est loin du jouet en tant que tel. Donc voilà, ça vaut la peine d'aller le voir à l'affiche, évidemment, dans tous les cinémas, un peu partout. On s'arrête quelques instants. Au retour, on commence à regarder le gala des Gémeaux, mais on complétera la semaine prochaine. La folie en 4, reprise de Hate It Too, tout de suite en musique.
Ces jours, la folie. We'll be right back.
Voilà, la folie, folie en quatre, et c'est à peu près ça aussi aux États-Unis, parce que comme je le disais, ça vient d'être prononcé, donc ce matin vers 10h15, la Cour suprême des États-Unis a invalidé l'arrêt Roe contre Wade, enterrant ainsi l'arrêt de 1973 qui protégeait le droit à l'avortement à l'échelle nationale. Donc à partir de maintenant, les États pourront individuellement décider si les femmes auront le droit de se faire avorter ou non, ou restreindre le droit à l'avortement sur son territoire. Ce qui fait déjà dire que le Missouri, la Louisiane et le Texas ont déjà annoncé qu'il était interdit maintenant de pouvoir avoir le droit à l'avortement sur leur territoire. Donc ça, c'est déjà fait pour ces États du Sud-là. Sinon, pour les autres, ça suivra évidemment éventuellement. Missouri, c'est dans le milieu, mais tu sais... Le Texas et la Louisiane, c'est dans le bas complètement. Donc, les autres États qui veulent l'interdire pourront le faire. Dorénavant, il y restera à peu près 6 États où ce sera complètement légal, puisque les États ont voté en faveur, soit Hawaï, la Californie, l'Oregon, Washington, New York, le Vermont et le New Jersey sont les seuls États où c'est garanti par l'État que les femmes ont le droit de recevoir un avortement sans qu'elles se fassent déranger comparativement à d'autres États où ça ne sera pas le cas. Donc, voilà pour ça. Ça vient toujours de sortir, donc c'est pour ça que c'est tout à fait frais comme nouvelle. Rapidement, avant de conclure l'émission, je voulais parler des Gémeaux. Ça s'en vient, le gala de la télé québécoise est de retour. Cet automne, on va commencer à regarder les émissions qui sont nommées pour la prochaine édition. On complétera la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de catégories et on se rendra pas aux interprétations à l'heure qui est rendue. Donc, allons-y avec les émissions en général, donc les projets qui seront célébrés dans la prochaine dans la prochaine gala de la télé. Pour la série dramatique, on y retrouve Aller Simple, qui est sur le zone de Novo, C'est comme ça que je t'aime, qui était sur ici.tv, qui ira éventuellement à Radio-Canada. Le temps des framboises, qui est sur le Clou Illico, je veux pas me tromper. Une affaire criminelle, saison 1, qui est sur Crave, qui devrait donc être éventuellement sur Novo. Et Virage, qui était pas la série sur Marianne Saint-Gelais du côté de Nouveau également. Nouveau se classe énormément d'ailleurs dans les nouvelles, dans les émissions. Maintenant, Nouveau devient totalement légitime. Il y a beaucoup d'émissions nommées, autant des dramatiques que des émissions d'humour. Fait que ça, c'est bien pour Nouveau, pour Belle au grand complet. Dramatique annuelle, et ça, c'est important de le mentionner, la catégorie quotidienne n'existe plus, au sens où District 31 se retrouve maintenant nommé avec les autres. Donc, on a retiré la catégorie spéciale de District 31 pour qu'elle soit en compétition avec L'Échappée, Les Moments Parfaits et Nous à TVA, ainsi que Toute la vie à Radio-Canada. Dans le cas de Nous, émission qui éventuellement sera également à la télévision, présentement sur le Club Illico, c'est des jeunes de 25 ans qui techniquement sont nés au même hôpital et qui se retrouvent 25 ans plus tard pognés d'un ascenseur. C'est la prémisse. Fait que, à voir de quoi ça aura l'air. C'est 25 jeunes qui ont tous des problèmes, bien évidemment, qu'on apprendra à connaître au travers des différents épisodes et qui, bon, vont finalement devenir une belle communauté parce qu'ils s'en vont rester dans un logement, pas tous ensemble, mais dans le même bâtisse. Meilleure comédie, et ça, je trouve ça particulier parce que Audrey est revenue et là-dedans. Oui, on rit, mais il me semble que c'est un drame. C'est quand même une fille qui est dans le coma, qui sort après 15-20 ans. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Mais en même temps, la série de Florence Lompré à Télé-Québec, M'entends-tu, était techniquement une comédie, même si on parlait de violence conjugale. Donc, meilleure comédie, Audrey est revenue. L'œil du cyclone à Radio-Canada, Les Mecs, saison 2, Sans rendez-vous et Survivre à ses enfants, tous également à Radio-Canada. Donc, Audrey est revenue, Club Illico, me semble. Meilleur spécial humoristique, à l'année prochaine, Bye Bye 2021, Le Gala des Oliviers, techniquement, c'est pas pas celui de cette année, mais lui de l'année passée, de l'année d'avant, parce que Gadès Olivier, cette année, c'était pas le Yable. Infoman 2021 et le Grand Ménage des Fêtes 2021, production L'Entrepôt, j'ai aucune idée c'est quoi. Et c'est rare que je ne sais pas c'est quoi. C'était sur Unitv. Bon, c'était télé franco-ontarienne, une TV, OK. Mais un spécial humoristique, le Club Soli, en deux draps, du côté de Nouveau. Infoman, saison 22, du côté de Radio-Canada. Le Punch Club et Rire sans tabou, saison 3, du côté de ZTélé. Pour les variétés, en direct de l'univers, qui devrait le remporter, comme d'habitude. La belle tournée à TVA, le prochain stand-up du côté de Nouveau, Révolution, toujours à TVA, et Sale Barbe aux îles, une émission spéciale qui était à Radio-Canada, sauf erreur. Et on va conclure avec, et ça me fait sourire, pour le meilleur jeu, Sans génie et Au suivant pour Radio-Canada. Également, Les petits tannants, donc les enfants de 5 ans qui font des mauvais coups, ça c'est un jeu, et c'est dans les meilleures émissions. Les imposteurs qui sont